Mes frères bien-aimés, si une chose saute aux yeux dans le dialogue entre le Christ et le jeune homme riche, c'est que l'amour qui habite le cœur de Jésus est un amour dévorant qui n'en a jamais assez. Que voulez-vous ? C'est le propre de l'amour, de vouloir aimer toujours davantage et de vouloir être aimé toujours davantage. D'ailleurs, c'est là un très bon critère pour savoir si oui ou non notre cœur est habité par l'amour à l'égard de Dieu notre Père, à l'égard de la Sainte Vierge, mais également à l'égard de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de nos collègues de bureau ou encore de nos professeurs. Quoi qu'il en soit, le Christ, lui, possède bien cet amour brûlant. Aussi, quand le jeune homme riche lui affirme qu'il a scrupuleusement appliqué les 10 commandements depuis son enfance, notre Maître ne lui permet pas de se contenter de cela et le pousse à aller encore plus loin. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Attention, ne voyons pas dans cette réaction christique celle d'un homme qui voudrait apparaître supérieur à son interlocuteur et qui pour cela lui fermerait le clapet en lui montrant qu'il est encore loin du compte. Non, juste avant de lui dire cela, notre Seigneur pose son regard sur lui et l'aime. Cette nouvelle exigence découle donc de l'amour qui veut le bien toujours plus plaigné de celui qui l'embrasse. Or, frère bien-aimé, Jésus nous aime tous. Par conséquent, cet appel à la pauvreté n'est pas adressé seulement aux personnages de l'Évangile, mais à nous tous. Je le répète, cet appel à la pauvreté est adressé à nous tous. Pour autant, en vous disant cela, je ne voudrais pas que nous tombions dans une simplicité naïve, en croyant que pauvreté évangélique correspond à pauvreté matérielle. Non, la pauvreté évangélique est un état d'esprit qui revêt plusieurs modes pratiques. En conséquence, si pour ce jeune homme riche, cet appel consistait à vendre tous ses biens et à les donner aux pauvres, cela n'est pas le cas pour tout le monde. J'en veux pour preuve que saint Pierre, qui a été institué par notre Seigneur premier pape de l'Église, a gardé sa maison tout en vivant avec le Christ. Donc, nous mettre sérieusement à la suite du Christ n'implique pas pour chacun d'entre nous de vivre comme saint François d'Assise dans un dénuement total. Il ne faut suivre cette voie de l'extrême pauvreté que si on s'y sent appelé au fond de sa conscience. Et je pense en particulier aux parents, qui se doivent d'avoir une certaine aisance économique pour pouvoir loger, nourrir leurs enfants et pour pouvoir par la suite les aider à faire leurs études, à se lancer dans leur vie professionnelle. Mais cette réserve étant faite, il n'empêche, nous devons tous vivre de la pauvreté évangélique qui consiste à être détaché de ses biens. Et pourquoi faut-il être détaché de ses biens ? Tout simplement parce que si nous y sommes trop attachés, tout tourne autour d'eux et nous les mettons tout en haut de notre hiérarchie de valeurs. Pourtant, il y a d'autres réalités plus importantes, et notamment notre famille, les amis qui nous entourent, les pauvres que nous côtoyons, et bien évidemment la Trinité, la Sainte Vierge, les anges et les saints. Par conséquent, posons-nous sincèrement cette simple question. Suis-je prêt, oui ou non, à abandonner tout ce qui fait ma vie si Dieu me le demande? Si vous répondez oui, c'est parfait et il faut continuer à entretenir cet état d'esprit. Si vous répondez non, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut se reprendre. Tout d'abord parce que nous ne pouvons pas faire le tri dans l'enseignement du Christ entre ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît, mais aussi parce que nous avons à préparer notre mort, qui est l'acte ultime de notre vie et qui sera l'incarnation de la pauvreté évangélique, puisque nous serons dans le dépouillement le plus total. Nous ne serons maîtres de plus rien et nous devrons tout laisser sur terre, jusqu'à notre corps, pour entrer dans le ciel. Aussi, regardons ensemble quelques situations où le cœur de l'homme est encore trop attaché à ses biens. Et quand je parle de biens, il ne s'agit pas seulement de nos avoirs matériels, mais aussi de tous les autres, notre temps, notre santé, notre sommeil, notre confort, nos loisirs, nos plaisirs, et j'en passe. Mais avant de nous plonger dans des cas concrets, je voudrais détruire par avance une idée qui pourrait germer en nous. Cette doctrine de la pauvreté évangélique n'implique aucunement que nous ne nous attachions à rien, que nous n'entretenions rien, que nous soyons négligents à l'égard de nos amis, de notre maison, de notre travail, de notre compte bancaire ou de nos habits. Pas du tout. Prenons soin de tous ces aspects de notre existence. Mais cette doctrine implique par contre une disposition d'esprit selon laquelle, pour le bien suprême qu'est Dieu, pour le bien éternel qu'est la vie au paradis, nous sommes disposés à tout, y compris à vivre temporairement sans les autres biens. Il faut donc bannir de nos comportements tous ceux qui vont dans le sens d'un attachement trop viscéral aux biens secondaires. Encore une fois, ceux-ci sont bons en soi, mais s'ils nous dévient du bien premier qui est l'amour de Dieu, alors ils en deviennent mauvais. Bon, cela étant clarifié, explorons maintenant quelques situations qui nous éloignent de la pauvreté évangélique, qui travaillent donc sur le long terme à notre tristesse et qui, si elles nous concernaient, devraient nous pousser à demander l'aide de la grâce pour nous sortir de cette prison spirituelle et pour nous redonner la liberté des enfants de Dieu. D'avance, veuillez m'excuser si ce que je vais dire va bousculer votre manière de mener votre destinée. Mais en tant que disciple du Christ, et surtout en tant que prêtre à qui vos âmes ont été confiées, je me dois de dire ce que je vais vous dire. Le premier exemple que je voudrais soulever avec vous est celui du père ou de la mère de famille, ou des deux d'ailleurs, qui tiennent tant à leur carrière professionnelle et à l'image qu'ils renvoient auprès de leurs collègues, qu'ils passent plus de temps au travail que nécessaire, délaissant par là la vie familiale. À tel point que les enfants ne voient quasiment plus leur papa et leur maman durant la semaine. Ils font leurs devoirs tout seuls ou avec la nounou et se couchent sans histoire, n'ayant pour marchand de sable qu'un baiser furtif des parents. Baiser qui ne satisfera jamais le besoin affectif de l'enfant, lequel préside pourtant à son mûrissement et à son éducation. Quant au week-end, n'en parlons pas. L'époux et l'épouse se sont débrouillés pour travailler encore le samedi. Aussi le dimanche, il faut qu'ils se reposent un peu et prennent soin d'eux. Les garçons ne garderont donc aucun souvenir d'une partie de foot avec leur papa, ou du bricolage d'une niche en bois pour le chien. C'est bien plus simple de les mettre devant FIFA 2018 ou d'aller acheter ce qu'il faut à Conforama. Et les filles ne sauront jamais ce que c'est que de peindre ou de se balader en compagnie de leur maman. C'est bien plus simple de les inscrire à un cours de dessin ou à un club de marche. Mes frères, qu'il s'agisse du père, et c'est plus souvent le cas, ou de la mère, ou des deux, cette situation est catastrophique. Et malheureusement, en notre époque, elle s'étend de plus en plus. Si des nécessités économiques le demandent, bien sûr le Seigneur comprend. Mais sinon, cet attachement au travail va à l'encontre de la pauvreté évangélique et pourrit la vie de notre entourage. Le deuxième exemple qui est tout aussi courant est celui de cet homme, appelons-le René, qui vient d'acheter une toute nouvelle tondeuse. Vous savez, les tondeuses autoportées qui sont comme des petits tracteurs. Nous sommes le samedi après-midi et René ne résiste pas à l'essayer. Il fonce pour tondre sa pelouse avec plaisir jusque dans les derniers recoins. Le week-end d'après, voilà que son voisin vient sonner et après quelques formules de politesse, lui demande s'il pourrait emprunter la tondeuse. Bien évidemment, le voisin ne dit pas qu'il a regardé à travers la haie samedi dernier et qu'il a vu la toute nouvelle tondeuse, mais il espère bien pouvoir l'utiliser. De son côté, René n'hésite pas une seconde. Il ouvre la porte de son garage, file dans son atelier et revient avec son ancienne petite tondeuse, à moitié morte, mais qu'il prête avec un grand sourire. À part si votre voisin a la fâcheuse tendance de casser tout ce qui lui passe entre les mains, cet attachement aux outils va à l'encontre de la pauvreté évangélique et dégrade nos relations. Le troisième exemple nous atteint tous puisqu'il a attrait à notre rapport au temps. Et pour le coup, je vais prendre une célibataire de 22 ans, parce que les parents et les hommes ont déjà assez trinqué. Mademoiselle a décidé, depuis sa rentrée en deuxième année de master, de penser davantage à sa condition physique et de faire donc de la gym pilates afin de renforcer ses muscles profonds et de rectifier sa posture qui a souffert des milliers d'heures courbées sur la table de travail. Tous les mardis et jeudis soirs, de 20h à 21h, c'est donc parti pour une heure de gymnastique apparemment douce, mais pas pour autant reposante. Pour rien au monde, elle ne louperait ses cours, tant le sentiment de satisfaction dont elle jouit après est agréable. Et il y a aussi les copines, avec qui l'on discute avant et après. Et surtout, elle met un point d'honneur à tenir sa résolution, elle qui abandonne normalement tout sport après seulement 3 semaines. Mais voilà qu'au mois de novembre, une amie actrice lui demande de l'aider durant tout le mois pour apprendre son texte. Aucune possibilité de négociation, le seul horaire possible est le jeudi soir de 20h à 21h, pile pendant la gym pilates. Eh bien, si notre jeune fille refuse la proposition, son attachement au temps libre et au sport va à l'encontre de la pauvreté évangélique et altère notre vie sociale. Le quatrième et dernier exemple que je tiens à présenter vient tout droit de l'expérience que j'ai eue et que j'ai encore auprès des mourants dans les maisons de retraite. Qu'ai-je remarqué ? Tout simplement que de nombreuses personnes ne veulent pas mourir et ne meurent effectivement pas, parce que les problèmes d'héritage ne sont pas encore réglés. Et je ne vous parle pas d'histoires de maisons ou de sommes astronomiques, mais de choses toutes simples, de meubles, de tableaux, d'habits ou de quelques souvenirs. Tant que tout n'est pas attribué, certaines personnes ne peuvent pas partir. Et au moment même où le dernier acte notarié est signé, ça y est, ils lâchent prise et s'en vont dans les bras du Père. Mais bon sang, le temps qui précède notre entrée au ciel n'est pas fait pour résoudre des problèmes de fric, mais pour donner les pardons qui n'ont pas été donnés, pour recevoir ceux qui n'ont pas été reçus, et pour préparer notre âme à paraître toute belle devant notre Créateur. Aussi, à part si des millions sont en jeu, et que nous voulons tout décider avant de mourir pour éviter des conflits familiaux interminables et destructeurs, cet attachement à l'argent et au bien va à l'encontre de la pauvreté évangélique et empoisonne nos derniers instants de vie terrestre. Bon, je pense sans me tromper que vous avez compris la chose. Aussi, je vous laisse appliquer ce principe de la pauvreté évangélique aux 1000 particularités de vos vies. En somme, vis-à-vis de tout ce que nous possédons de matériel ou d'immatériel, il faut que nous soyons disposés à nous en défaire en une seconde, si le bien d'autrui ou si l'amour de Dieu l'exige. C'est ça la liberté des enfants de Dieu. C'est être heureux en toutes circonstances, même si on est amené à perdre certaines choses. C'est posséder un bonheur toujours débordant, un bonheur qui ne dépend pas de ce que nous avons ou n'avons plus. C'est d'ailleurs ce qui fait normalement notre beauté d'enfant de Dieu. Nous naviguons à travers les événements favorables ou tragiques, à travers l'opulence ou la pénurie, sans que notre joie ne perde une seule once de puissance. Aussi, frères bien-aimés, il faudrait que nous puissions mettre sur nos lèvres les mots que saint Paul coucha sur papier dans son épître aux Philippiens. « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. » Voilà la force des saints, et voilà la force qui doit devenir la nôtre. Amen.